Les rendez-vous de Rosendo. Les rendez-vous de Rosendo tous les dimanches à 13h, rediffusion le mardi à 23h. Et aujourd'hui, Rosendo, tu reçois Didier Mir.
Bonjour à tous, bienvenue à notre émission de chaque semaine. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui l'artiste dessinateur, artiste peintre aussi, Didier Mir Mallet. Plus connu comme Didier Mir par ses tableaux. Bonjour Didier.
Bonjour.
Je suis accompagné aussi par Marie Perron et par Léo Benoît Cohen qui vont m'aider à te cuisiner, Didier. Et bonjour Marie.
Bonjour.
Bonjour Léo.
Bonjour.
Donc Léo et Marie, vous pouvez intervenir à n'importe quel moment dans notre émission. Et je rappelle à nos auditeurs que chaque semaine, j'invite un artiste, peintre, écrivain, poète. Et la première partie de cette émission consiste à présenter son parcours. Et ensuite, il commente une actualité par rapport à sa lecture, ou son film. Et aussi, s'il y a une œuvre en cours ou une œuvre à présenter au public, évidemment, on fait cette présentation. Rebonjour, Didier. Alors, depuis 30 ans, tu es dans le Tarn-et-Garonne. Et tu es venu exilié de Toulon, on t'a expulsé de Toulon, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que c'est? Tu me disais que tu étais un exilé politique.
Non, c'était une blague. En fait, oui, je suis arrivé de Toulon en 84, puisque après mes études, j'ai passé le concours d'instituteur, et j'en ai passé plusieurs, et je l'ai eu à Montauban, donc ce qui a fait que j'arrive à Montauban il y a 30 ans. La blague d'exilé politique, c'est parce qu'à l'époque, c'est le Front National qui était à la mairie de Toulon, et que j'étais pas vraiment fâché de les quitter. Voilà.
Oui, et nous avons ici, justement, tu parles du Front National, tu parles de la question politique. On ne peut pas faire fi de ton sujet, de ton œuvre, parce que, justement, on va reparler dans le troisième volet sur l'actualité de ton exposition que tu as à Verdun-sur-Garonne. Mais pour que nos auditeurs puissent imaginer déjà ton profil, et je ne peux pas m'empêcher de mentionner les tableaux en original que tu as amené ici au bureau de CFM Radio, parce que tu as représenté un policier avec une matraque. Et ensuite, on peut distinguer facilement les médias représentés par les chaînes les plus vues ici dans les paysages de l'audiovisuel français. Et vraiment, la première question qui me vient à l'esprit, Didier, est-ce que un artiste engagé comme toi peut se permettre de présenter une image? Et bien sûr, ça colle avec l'engagement, mais est-ce que tu n'as pas peur que tu n'arrives pas à diffuser ou à exposer facilement dans les différentes galeries ou dans les différents lieux d'exposition, étant donné que parfois sont assez chétifs pour ce type d'exposition?
La question est importante, celle-ci, je me la suis posée, bien sûr, et j'ai décidé de me libérer de toutes ces contraintes-là, de faire ce que j'avais envie de faire, peu importe ce que pensent les galeries, puisque la peinture de commande et de la peinture de galerie, c'est une chose que j'ai faite il y a longtemps, qui marchait pas trop mal, et au niveau financier, j'entends. Et j'ai décidé d'arrêter parce que cette démarche en fait ne me convenait pas du tout, et ça a mené à une certaine stérilisation de ma peinture, puisque j'étais en porte-à-faux entre ce que je pensais et mes convictions et une certaine façon de produire de la peinture, et donc la peinture de galerie, les paysages ou des choses qui par ailleurs pouvaient m'apporter du plaisir dans la réalisation, j'ai arrêté pendant longtemps, c'est-à-dire que ça a séché ma peinture, si je peux dire, pendant une dizaine d'années. Et bon, il y a d'autres raisons aussi, hein, mais la principale au niveau pictural, c'est celle-là. Et par la suite, quand je me suis remis à la peinture sous la pression amicale de gens qui m'entourent, j'ai décidé, puisque je suis aussi un travailleur peintre, c'est-à-dire que je me considère comme un salarié, j'ai une activité salariée qui me dégage de toute contrainte de thématique ou de choix. Je fais absolument ce que je veux et je ne dépends absolument pas au niveau financier de la peinture. Donc le fait, ça me laisse les mains libres. Je n'en vends pas ou très peu, mais c'est pas la question. C'est pas pour ça que je le fais. Et donc quand j'ai redémarré la peinture, je me suis posé la question de savoir à quoi ça sert de peindre. Et cette série, puisque la peinture à laquelle tu fais référence et qu'on pourra, je pense, voir sur le site de CFM. Et fait partie d'une série, qui a commencé en fait il y a bien longtemps, c'est en 2006, au moment de la commune de Oaxaca, au moment où le peuple mexicain de Oaxaca s'est soulevé. J'ai suivi cette révolte avec beaucoup d'enthousiasme et d'espoir, et comme beaucoup de ces mouvements populaires, ça a fini dans une certaine débâcle et dans la répression. Donc à cette époque-là, j'avais fait un premier tableau. Qu'on pourra voir à mon exposition avec ou sans les bras, dont je reparlerai. Et depuis, l'idée de faire de la peinture qui à mon sens disent quelque chose, qui servent un peu à quelque chose sur le terrain des idées politiques, était restée dans un coin de mon esprit. Et en 2010, avec le mouvement des places, où on a vu refleurir quand même les peuples sur les places d'Europe et d'ailleurs. Que ce soit à Athènes, à Madrid, à Barcelone, mais aussi à Rio, et puis plus récemment en Syrie ou à la place Maïdan. J'ai essayé de prendre le personnage clé de cette histoire-là, qui est le flic de base, quoi, le flic harnaché, le tout carapassonné, et de décliner ce personnage. Donc ce personnage-là, il a une étiquette sur l'épaule gauche qui, on voit juste poli. Donc je, au départ, j'avais un peu dans l'idée de produire les aventures de Paul ou de Poli comme un personnage. Et à chaque fois que je voulais avancer une idée, j'essayais de détourner l'image et de la mener à ce à quoi je voulais arriver. Donc il y a un argument. Puisque la police lourdement harnachée sert souvent d'argument à ceux qui refusent ce monde, à grand coup sur la tête. Il y en a un qui est communicant. Alors celui-là est armé d'un sucre d'orge avec des petits nounours tagada qui dégoulinent. Et non, il est tout mignon. Il a un petit de ma série, je parle de ma série. Personnage-là. Je raconte l'histoire de ce personnage.
Effectivement, oui.
Et donc le communicant, c'est-à-dire c'est celui qui duquel coule du sucre de sa bouche. C'est du sucre piégé, mais c'est du sucre quand même, bien chimique, qui empoisonne tout le monde. Et celui dont tu parlais, c'est le pédagogue. C'est le pédagogue parce que d'une part c'est aussi un peu mon métier, donc il y a un lien qui se fait. Et par ailleurs, ce pédagogue-là, c'est peut-être celui qui m'exaspère le plus, puisque dans les médias dominants, quand une idée politique, souvent régressive, ne passe pas ou a du mal à passer, les dominants, les maîtres des lieux, nous présentent, on va faire de la pédagogie, parce que ces espèces d'abrutis n'ont rien compris, il va falloir faire de la pédagogie. Donc la pédagogie, ça sert... Dans les médias dominants, à faire passer les idées que l'on refuse. Et si on les refuse encore, ben là, le pédagogue harnaché revient sur la scène et on retrouve l'argument dont je parlais tout à l'heure.
Merci Didier, mais je pense que ton explication et ton argumentation est assez riche. Et du coup, ben, on va inverser les volets, parce que maintenant on parle vraiment de ton actualité, de l'exposition des peintures. Tant mieux. Donc, et les parcours, je vais les faire pour après. Et je t'invite donc à rappeler les lieux d'exposition, les dates que tu as à Verdun-sur-Garonne, où les auditeurs et tous ceux qui nous écoutent pourront voir en direct les différents personnages. Je rappelle à nos auditeurs que Didier vient de nous faire un exposé riche et fourni sur plusieurs personnages. Non, je rappelle les pédagogues, l'argument, toute une série de flics ou des policiers qui sont harnachés, et chacun représente un tableau qui constitue la série de cette exposition. Alors, c'est à Verdun-sur-Garonne.
Oui, alors cette exposition, ça, c'est avec ou sans les bras, puisque ce dont je viens de parler, ça n'est qu'un volet, puisqu'en regard, il y a aussi certaines peintures qui représentent des monuments de l'art classique qui ont, auxquels on, il manque les bras, dont la Vénus de Milo, le torse du Belvédère ou El Gigante, c'est une statue monumentale qu'on trouve en Italie, en Ligurie. Donc toutes ces tableaux vont se parler, j'espère, et parler aussi au public. À Verdun-sur-Garonne, c'est au 54 rue de la Bastide, à Verdun-sur-Garonne, c'est dans le vieux Verdun.
Et c'est la chapelle, ça s'appelle?
Ça s'appelle l'Espace La Chapelle. L'Espace, donc, ouais. C'est issu d'une association qui s'appelle Horizon d'Étoiles. Cette association est née en 2011 à l'initiative de Stella H, qui est sa présidente, et dont le fil rouge est de faire partager, de promouvoir, de fédérer, de diffuser des activités individuelles, en associant des diversités culturelles, sociales, artistiques, et pour favoriser la création.
Donc, merci Didier, excuse-moi de te couper, et je vois que tu as beaucoup de choses à nous dire, désolé de te couper comme ça, mais je vais revenir un petit peu à ton parcours, à peine, et on va continuer après la pause musicale, bien sûr, mais tout à l'heure, tu nous mentionnais ton métier. Je pense que tous les auditeurs ne savaient pas que Didier Mir est aussi ou était aussi instituteur maintenant, et il travaille comme formateur de formateurs, non? C'est-à-dire dans cette structure qui avant s'appelait les UFM et qui maintenant s'appelle l'ESPE. L'ESPE, ça veut dire École supérieure du
professorat et de l'enseignement.
De l'enseignement, voilà. Donc, on pourrait dire que cette activité d'instituteur, cette activité d'enseignant t'a permis cette indépendance que tu avais avec la peinture.
Tout à fait, oui. Mais je suis toujours instituteur. C'est-à-dire que c'est un travail à temps partiel. Je suis deux tiers de temps en classe et un jour et demi à peu près au service de l'ESPE et des professeurs d'école stagiaires.
Alors, servir à l'éducation nationale, t'as pas posé de problème vis-à-vis de ce que tu racontes pour la peinture, c'est-à-dire que vis-à-vis de l'establishment, tu as une position de résistance à niveau artistique. Mais là maintenant, comme enseignant, tu es confronté aussi pas mal des dispositions ou des directives auquel tu résistes, et comment tu t'es débrouillé avec?
Mais j'ai toujours scindé les deux. Toute mon activité artistique a toujours été à peu près une activité étanche par rapport à mon activité professionnelle. Il y a eu l'année dernière une petite entorse à cette règle, puisque j'ai été invité à l'UFM par le chargé. C'était encore l'UFM à l'époque, c'est pour ça que ça a changé l'année suivante. J'ai été invité à accrocher des scènes dans l'UFM à la demande du chargé de mission, l'équivalent de son directeur. Donc c'est la seule anicroche qu'il y a eu dans ce parcours, mais autrement les deux activités sont parfaitement étanches. Ensuite la question de savoir si comment je me débrouille avec ces positions là je pense qu'au sein de l'éducation nationale, je ne suis pas le seul à avoir un regard critique, et je pense que c'est une institution suffisamment ouverte pour pouvoir entendre les critiques, et dans la mesure où elles se font dans un cadre donné. Donc je crois que les deux activités ne se télescopent à aucun moment.
Très bien. Et donc, on va faire une petite pause, et un clin d'œil à un poète, Cavafis, ou Cavafi, que tu vas nous en parler après, Didier.
Surs per fer el viatge cap a Itaca, has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences, has de pregar que el camí sigui llarg, que siguin moltes les matinades, que entraràs en un port, que els teus ulls ignoraven i vagis a ciutats per prendre dels que saben. Sempre per la idea d'Ítaca has d'arribar i és el teu destí, però no forcis gens la travessia, és preferible que duri molts anys que siguis vell quan fundegis l'illa, ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí, sense esperar que et dongui més riquesa.
C'était Viaggio Ítaca de Louis Liac, c'est un poème de Cavafis. Bon, j'ai choisi ce morceau parce qu'il me suit depuis très longtemps. Louis Liac est un chanteur catalan qui maintenant a arrêté pour le moment au moins il a arrêté de chanter, il écrit, et c'était un opposant de la première heure à Franco. Il s'est réfugié en France dans les années 69-70, plutôt 70-71 même, et dans les années 80, quand j'ai rencontré son œuvre, je l'ai pas rencontré physiquement, j'étais dans le mouvement occitan et je me suis retrouvé aussi dans ce catalanisme militant là. Et depuis, il l'accompagnait toute ma vie, quoi.
Merci Didier. Je rappelle que nous sommes toujours avec l'artiste dessinateur, artiste peintre, Didier Migre. Et Marie avait quelque chose à te questionner, quelque chose à...
Oui. Oui. Je me demandais si tu avais des origines espagnoles, Didier.
Vu le nom que je porte, j'ai sûrement des origines catalanes, mais aucun ancêtre connu. J'ai une grande affinité pour le monde hispanique en général, la Catalogne en particulier, mais voilà.
Est-ce que le 36-39, la guerre, comme on dit ici, les Espagnols qui sont installés en Tarn-et-Garonne, pour eux, ce n'était pas la guerre civile, c'était la guerre antifasciste. Est-ce que cette guerre a marqué ton rapprochement vis-à-vis des antifranquistes, vis-à-vis de la Catalogne, vis-à-vis de l'espagnol en général?
Oui, ben, évidemment, parce que l'occitanisme, ça a été la porte d'entrée, puis après je m'en suis séparé. Et l'intérêt que j'ai eu pour le catalan, au niveau linguistique d'abord, puisque c'est très proche de l'occitan, et ensuite pour l'espagnol, ce qui a fait que j'ai comment dire, j'ai pris à bras le corps cette culture et cette langue et ces langues, c'est justement pour arriver à mieux comprendre ce que j'appelle moi la révolution espagnole. Je considère que c'est une guerre civile, c'est surtout les tenants et les aboutissants de la révolution espagnole. Et qui est la seule révolution du XXe siècle où le prolétariat est gagné au moins pendant un temps et réussi à mettre en œuvre des structures économiques sur un modèle tout sauf capitaliste et libertaire. Donc c'est ce qui m'a passionné et le fait de m'approprier d'apprendre cette langue, à la fois le catalan et l'espagnol, a été une façon pour moi de m'approcher au plus près du cœur du réacteur, si on peut dire.
En rebondissement, Marie, à propos de ce qui vient de dire, Léo, si tu peux intervenir à n'importe quel moment aussi. Hein.
Ouais, d'accord.
Est-ce que c'est un thème qu'on retrouve dans vos tableaux?
Non, pas encore. Peut-être que ça viendra un jour, mais non.
Mais déjà dans la première exposition que tu as fait dans les passages 17, il y a un rapprochement à la famille.
Il y a un dessin. J'ai fait un dessin.
Tu vois, je connais bien ton travail.
Oui, c'est vrai. Tu vois, moi-même j'avais oublié. il y a un dessin qui représente le président
Manuel
Azaña, et suivi de Negrín. Et entouré de soldats, c'était tiré d'une photo prise en 39, je crois. Et ce dessin représentait pour moi la trahison du Parti communiste espagnol et Negrín qui a caché l'or de la République espagnole en URSS à l'époque. Et à ce jour, je suis pas sûr qu'il ait été restitué aux Espagnols. Voilà, donc c'était un tableau un peu faux ami puisque Azaña est enterré à Montauban, hein, puisque c'était en rapport avec ça, c'était en rapport avec la place nationale et avec Montauban. Donc c'est pour ça que j'avais choisi ce personnage d'Azaña et aussi pour remettre un peu les pendules à l'heure puisque une certaine partie de la gauche bien pensante encense la République espagnole, alors que pour moi ce sont les fossoyeurs de la Révolution espagnole et ceux qui ont voulu l'or de l'Espagne.
Très bien, j'espère que...
Je vais me faire plein de copains, là.
Ah oui, non, mais c'est très bien, comme ça, comme on dit Cyrano de Bergerac, je collectionne les ennemis.
Moi, je voulais te demander, tu nous as dit tout à l'heure que tu étais professeur. Est-ce que le fait que tu sois professeur nourrit ton art? Et est-ce que ton art nourrit le fait que tu sois professeur?
Ah, sacrée question.
C'est une bonne question. Moi, ça, on le dit tout le temps. Mais, il y a forcément un rapport. Il y a forcément un rapport. Ne serait-ce que dans le fait que dans mon métier d'enseignant, je suis amené à enseigner les arts visuels aux enfants. C'est dans les programmes. Donc là, il y a un lien. Donc il y a une passion que j'essaye de transmettre aux élèves de travailler les arts visuels avec les enfants. C'est vraiment quelque chose de passionnant parce qu'on en apprend tous les jours. Là, c'est les enfants qui m'apprennent des choses et plutôt que l'inverse. Et d'autre part, en tant que formateur de professeur stagiaire, j'ai une spécialisation aussi qui sont les arts visuels.
Mais tu l'enseignes pas.
Je l'enseigne pas à proprement parler. C'est-à-dire que ça peut intervenir dans des stages, ça peut intervenir dans de la formation continue, de la formation initiale. Mais, je l'enseigne pas tant, voilà, c'est de façon assez occasionnelle, en fait.
Oui. Bon, parlons de l'enseignement. Là, au départ, tu étais autodidacte. Et après, en étant adulte, déjà avec ton métier, ton diplôme en poche d'instituteur, tu as commencé à prendre des cours à Montauban avec Flavio De Faveri. Et comment c'était ces rencontres avec l'apprentissage du dessin? Je te parle de ça parce que je vais arriver, je te l'annonce, au figuratif et abstrait. Donc, voilà, la couleur est déjà là.
Ben, déjà, en arrivant à l'école normale de Montauban, il y avait un professeur de dessin qui, s'il écoute, je le salue avec beaucoup de respect, et qui s'appelle Monsieur Larocque, et qui nous a donné un bonheur dans son atelier. Il a mis à notre disposition de quoi vraiment prendre beaucoup de plaisir et de bonheur à pratiquer les arts. Donc ça a été un des points de départ, mais je savais que j'allais dans cette direction de toute façon. Et ensuite, j'ai choisi de m'inscrire à l'école de dessin l'école municipale de dessin qui était tenue par Monsieur De Faveri à l'époque, et j'y suis resté 3 ans. C'est une école assez austère, On commençait par dessiner le chardon sec et puis on arrivait ensuite en franchissant les étapes à dessiner des plâtres. Mais c'est ce que je recherchais, cette espèce de rigueur et cet apprentissage du dessin académique. J'en avais besoin. Ça me rassurait. J'avais besoin de passer par là. C'était pas rigolo tous les jours, mais je ne regrette absolument pas d'avoir fait cette démarche-là. Et ensuite, j'ai rencontré différents peintres locaux.
Jean-Pierre Bigou.
Alors Jean-Pierre Bigou.
Bigou, pardon.
Ça a été vraiment la rencontre de ma vie, puisque au niveau artistique, j'entends, puisque on a eu une relation de maître à disciple. On s'est reconnus tous les deux, je crois. Hein, au départ, c'était au sein de stage, et on a passé 8 ans de travail commun. Pas uniquement tous les deux, il y a eu des moments de où on était un petit groupe très actif et très très sympathique, et on arrivait, il avait réussi à créer une espèce d'atelier bouillonnant où la responsabilité de chaque la responsabilité mais la personnalité de chaque élève était respectée d'une façon magistrale.
Jean-Pierre Bigou. Et c'est un peintre très connu ici dans la région. Et pour nos auditeurs, sur les sites de CFM, on a voulu afficher aussi un tableau à lui qui s'appelle La place du Capitole. C'est un tableau que je te donne le plaisir de pouvoir le décrire, Didier. Donc c'est la peinture à l'huile de format moyen, 1 mètre de haut par 1,5 mètre de large à peu près. Et voilà. C'est à toi, Didier.
Alors, Bigou m'a donné le goût indéfectible de la peinture à l'huile, c'est-à-dire que je suis resté accroché à l'huile, j'aime l'odeur, voilà.
Avec l'odeur de la trémantine.
Avec l'odeur de la térébenthine, vraiment, bon voilà, je suis resté à l'huile, et je pense que ça vient de ce travail en commun. Et donc ce tableau est pour moi une espèce de source... de leçons de peinture permanentes à laquelle je vais puiser chaque fois que je bute quand mon travail pictural bute sur une difficulté, et c'est souvent. Donc ce tableau est pour moi comme une source, c'est en le puisque bon Jean-Pierre Bigou nous a quitté il y a assez longtemps, 97, et en regardant ce tableau je repasse comme une litanie tous ces entretiens qu'on a eu, tous ces conseils qu'il donnait, tous ces avis, et dans les transparences, dans les oppositions de couleurs, dans la composition, je l'entends parler. Ce tableau me parle en permanence.
Qu'est-ce que tu as aimé le plus au niveau des compositions de couleurs, par exemple, les traitements qu'il fait avec des grands gestes, parce qu'il se trouve, à mon avis, dans une espèce de limite entre le figuratif et l'abstrait, comme font beaucoup de peintres, mais lui, il le fait avec une essence, avec une atmosphère qu'on dirait que traite. La peinture à l'huile comme si c'était du beurre que tu tartines et qui laisse apparaître parfois des figuratifs, mais avec une maîtrise du dessin quand même, qu'on peut voir aussi dans tes tableaux, Didier.
Alors c'était un dessinateur vraiment majestueux, et la question de la figuration ou de l'abstraction, c'est vrai que c'est une question permanente, c'est des allers-retours, hein. Moi-même je suis passé par les deux modes d'expression. Et tu me demandes ce que j'aime dans ce tableau. J'ai pas dit que je l'aimais. je suis pas sûr de l'aimer, en fait. Il y a beaucoup de choses qui m'agacent, et je peste tous les jours contre Bigou pour des détails. Il y a même une fois où je voulais le retoucher. Ma femme m'en a empêché. Elle m'a dit tu peux pas faire ça. Il y a un orangé et un bleu qui sont côte à côte qui m'exaspèrent, mais voilà, ça fait partie de l'héritage, et il faudra que je fasse avec. Donc je m'engage à ne pas le retoucher.
Non, tu n'aurais pas les droits.
Non, 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 je plaisante quand je dis ça.
Oui, donc on va faire une toute petite pause musicale de quelqu'un que tu aimes bien. C'est pas une surprise, c'est quelqu'un qui est très connu de la chanson française, à texte.
En mi pueblo sin pretensión tengo mal reputación, que haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me pudo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir a la banderao. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón, ya la sagaba un ricachón. Zancadilla doy al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Trades mi todos a correr.
Tras de mí, bien detrás de mí.
Tras de mí todos. Tras de mí todos a correr. A ver, un y va. Si en la calle corre un ladrón, ya la sagaba un ricachón. Zancadilla doy al señor y aplastó el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mí todos a correr, salvo los cojos, es de creer. Ya sé con mucha precisión cómo acabará la función. No les falta más que el garrote pa' matarme como un coyote. A pesar de que no arme ningún lío, con que no va Roma el camino mío. Que a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Que a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mí todos a ladrar, salvo los muros, es de pensar.
Voilà, donc vous l'avez reconnu, c'est Georges Brassens. C'est la surprise, c'est que dans cette chanson, il chante en espagnol. Et c'est un enregistrement qui a été fait en 78, je pense, lors d'une rencontre avec Paco Ibáñez, au moment où Ibáñez a enregistré certaines des chansons de Brassens en espagnol. Et donc on l'entend dans la chanson, il se parle parce que Brassens se trompe, Ibáñez le reprend, il y a un autre morceau où il se fait engueuler par Ibáñez parce qu'il dit pas les choses comme il faudrait. Donc voilà, j'ai choisi cette chanson parce que bon, mais Brassens, ça fait partie aussi de ceux qui ont fait l'homme que je suis. Ça a été peut-être ma principale école. Et en espagnol, puisque si c'est avec Lucilla que j'ai appris le catalan, c'est avec Ibáñez que j'ai commencé à apprendre l'espagnol. Donc voilà, ça fait un peu une synthèse des sujets qu'on a abordés précédemment.
Oui, à niveau littéraire aussi, tu as plein de livres à nous inviter à lire, mais comme on n'a pas le temps ni l'espace pour pouvoir accumuler tous les livres ici, tu as choisi un livre qui est assez polémique, et je pense qu'il avait été édité en 2008, et l'auteur, c'est un professeur d'histoire qui s'appelle Shlomo Sand. Je ne sais pas si je le prononce bien, oui. Et dont le titre, c'est « Comment fut inventé le peuple juif ?» C'est « Déconstruction d'une histoire mythique ». Alors, Didier, comment ça se fait que tu es tombé sur ce livre? Parce qu'il va à la rencontre quand même de tout ce que les médias nous véhiculent sur le peuple juif. Et il est mis en exergue par l'écrivain, c'est le professeur, qui est vraiment, vraiment pertinent vis-à-vis des recherches, parce qu'il prend l'histoire comme un élément scientifique pour démontrer que le peuple juif, tel comme on est parfois instruit, est tout à fait à côté de la plaque.
Alors, comment j'ai rencontré? Moi, je l'ai rencontré par les émissions de Daniel Mermet, hein, sur France Inter. Il l'avait invité. Mm-hmm. Puis c'est quelqu'un qui est assez proche aussi du monde diplomatique et de Dominique Vidal. Donc voilà.
Tu parles de Shlomo Sand.
Je parle de l'auteur. Je parle de l'auteur de Shlomo Sand. Oui. Donc ce livre est d'un abord un peu austère au début. Et puis une fois qu'on est rentré, en tout cas que moi je suis rentré dedans, j'ai plus pu le quitter parce qu'il m'a vraiment passionné. Donc l'auteur, comme tu le disais, est un professeur d'histoire à l'université de Tel Aviv, et par son sujet, il aborde des domaines qui ne sont pas de sa spécialité. Il le dit lui-même au début de l'ouvrage, puisqu'il va sur, pour arriver à répondre ou à tenter de répondre à cette question-là, comment fut inventé le peuple juif. Il va sur les terres des anthropologues, des sociologues, des linguistes. Donc il va sur les terres disciplinaires de ses collègues universitaires, ce qui, de son point de vue et de son côté à lui, lui pose quand même des problèmes. Moi, ce qui m'a passionné dans cette histoire-là, c'est que d'une part, j'ai appris énormément de choses sur le monde religieux autour du bassin méditerranéen entre moins 600 et l'épopée romaine, que j'ai appris que la religion juive était à l'origine du monothéisme sur tout le bassin méditerranéen, et puisqu'en fait ce qu'on nous apprend souvent, c'est que on a l'impression qu'on passe du polythéisme des Gaulois ou des Romains au christianisme. Or historiquement c'est faux. Les religions juives, on devrait dire, les différentes formes de judaïsme ont préparé le terrain au monothéisme. Et cette avancée-là a apporté aussi autour du bassin méditerranéen des communautés juives importantes. Et pourquoi Shlomo Sand va sur ce terrain-là, c'est pour arriver à tordre le cou à l'idée sioniste qu'il y aurait une espèce que le peuple juif serait ethno-religieux et qu'il y aurait un jeune juif et qui justifierait ensuite la création de l'État d'Israël en 47-48.
Pardon, excusez-moi, voilà. Tu dis une des en lisant une partie de ce livre, je me suis trouvé avec moi-même une contradiction, parce que je me disais tout le temps, j'ai appris que le peuple juif avait été expulsé par l'Égypte, mais Shlomo Sand nous démontre historiquement que au moment qu'il avait été expulsé en dehors de l'Égypte, c'était pas vrai, parce que la Palestine à ce moment-là appartenait à l'Égypte, donc elle pouvait pas être expulsée dans un lieu qui appartenait encore à l'Égypte. Non.
Alors là, Shlomo Sand analyse beaucoup mieux que je ne pourrais le faire cette question de l'exil, puisqu'il dit qu'il ne nie pas la réalité de l'exil. Il dit qu'il a été minime. Il dit qu'il a été minime et que au niveau humain, le peuplement de la Palestine et même d'aujourd'hui, c'est le même peuple dont une partie s'est convertie au christianisme, une partie s'est convertie à l'islam et une partie est restée dans la religion juive. Mais il n'y a pas eu d'exil, et il montre aussi que cette notion d'exil est une notion religieuse, un concept religieux qui n'a rien à voir avec le sens qu'on lui donne aujourd'hui. C'est alors une démarche religieuse que je ne pourrais pas, en bon athée que je suis, que je ne pourrais pas vous vendre, mais il y a un contresens sur ce terme-là. Mm-hmm. Et cette question-là est passionnante, puisqu'ensuite il montre aussi, il décrit longuement l'histoire du peuple khazar et du royaume khazar, mm-hmm. qui se situait en Europe centrale, dans l'Ukraine actuelle. Les limites sont un peu floues, là, mettant de l'Ukraine au nord de la Turquie, en gros. Et qui montre que les peuples juifs ne sont des parties de l'humanité qui se sont converties à cette ou à ces religions-là, et qu'il n'y a pas d'unité, et que donc ce qui justifierait aujourd'hui par un point de vue sioniste le retour en Israël d'un seul peuple est une construction idéologique.
Il faut savoir que le sionisme, ça a été quelque chose qui a été créé en Europe par les juifs intellectuels européens. Il y a une partie des juifs, donc les juifs séfarades qui vivent en Afrique du Nord, qui étaient complètement fusionnés avec les peuples arabes musulmans, et que un extérieur pouvait pas faire la différence entre les deux. J'ai appris ça dans un documentaire qui est passé il y a pas longtemps sur Arte, sur l'histoire commune du peuple arabe et du peuple juif, qui était très intéressant.
Ben, Shlomo Sand développe cette histoire-là, puisqu'il développe aussi l'histoire de la reine Kaïna. Je sais pas si tu connais la reine Kaïna, qui est une reine berbère. Et qui est cité par l'ancêtre de la sociologie moderne, Ibn Khaldoun, du XIVe siècle, et qui dit que cette reine berbère, qui est encore célébrée aujourd'hui par les peuples berbères, était probablement à la tête d'un, je sais pas si on peut appeler ça un état, mais enfin une principauté judaïque. Mmh. Et tout ça est vraiment passionnant, quoi, parce que le le sionisme, et là aussi Shlomo Sand le développe bien, il montre comment cette construction idéologique a été faite au 19e siècle avec la montée des nationalismes en Europe. Ça procédait du même, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas de la même façon, hein. Ça procédait des nationalismes en Europe et des peuples ethnocentrés sur un peuple, un État. Hein. Donc ça, c'est très récent au niveau historique.
Et je voudrais apporter une information qui a été transmise par les anthropologues, plutôt les primatologues, parce qu'il y a 30 000 ans que les peuplades humaines élevaient des cochons, parce que vous voulez, je ne sais pas si vous imaginez vers quoi je vais vous amener, c'est-à-dire pourquoi les juifs, les arabes ou les musulmans ne mangent pas des cochons. Selon ces primatologues, expliquent qu'en réalité, les cochons ne peuvent pas s'élever comme les moutons, c'est-à-dire les moutons, les vaches, on pouvait les amener là où on veut. Mais les cochons ne peuvent pas vous suivre, c'est-à-dire que les bergers ne peuvent pas discipliner les cochons. Donc, par une raison économique, ils ont décidé que les cochons étaient maudits. Et c'est ça qui expliquerait pourquoi les juifs et les musulmans ne mangent pas de cochons. Une espèce de revanche économique.
Alors, je savais pas. Mais pour compléter ce qui a été dit sur ce livre de Shlomo Sand, qui vient de sortir un nouveau livre qui s'appelle, là aussi, qui porte aussi un titre provocateur, qui est Comment j'ai arrêté d'être juif. il va aussi se faire plein de copains, je sens. Mais le livre dont je parlais, là, Comment fut inventé le peuple juif, se termine quand même sur une énorme note d'espoir, de vie commune et d'un humanisme qui fait plaisir à lire. Et c'est assez dense à lire, mais c'est vraiment passionnant. Et je pense que sur ce conflit qui dure depuis maintenant près de 70 ans, avoir des points de vue humanistes et qui appellent à la réconciliation et qui montre que les peuples autour de la Méditerranée sont frères, s'il en était besoin de le montrer. Moi, j'ai vraiment l'impression de dire une évidence en disant ça, mais apparemment, ça ne l'est pas pour tout le monde. Donc, ça m'a fait énormément de bien de lire ces lignes-là.
Léo ou Marie, si vous voulez rebondir.
Je ne sais plus ce que je voulais dire, vas-y.
Non, moi non plus. Enfin, non.
Donc, vous faites une application.
Juste une petite chose. Est-ce que, dans ce bouquin que je vais lire, mais que je n'ai pas encore lu, je n'ai pas encore la chance de lire, est-ce qu'il parle un peu du... Enfin, il y a une théorie, une hypothèse qui dirait que le judaïsme viendrait, en fait, découlerait des religions orientales comme le bouddhisme ou le taoïsme, des choses comme ça.
Non, il ne l'évoque pas. Il part de la Bible et il a un long chapitre sur la construction au niveau historique et où il met en regard l'écriture de la Bible et les recherches archéologiques qui permettent de dater aussi ce qui est. Mais la Bible, le Talmud, mais il met pas en relation avec.
D'accord. Parce que le peuple Khazar, je me suis renseigné un peu avant de venir. Il venait en fait d'Asie.
Oui, en fait. Ça, il en parle des déplacements de population.
En la época victoriana, no se podían mencionar los pantalones en presencia de una señorita. Hoy por hoy, no queda bien decir ciertas cosas en presencia de la opinión pública. El capitalismo luce el nombre artístico de economía de mercado. El imperialismo se llama globalización. Las víctimas del imperialismo se llaman países en vías de desarrollo, que es como llamar niños a los enanos. El oportunismo se llama pragmatismo. La traición se llama realismo. Los pobres se llaman carentes o carenciados o personas de escasos recursos. La expulsión de los niños pobres por el sistema educativo se conoce bajo el nombre de deserción escolar. El derecho del patrón a despedir al obrero sin indemnización ni explicación se llama flexibilización del mercado laboral. El lenguaje oficial. social reconoce los derechos de las mujeres, entre los derechos de las minorías. Como si la mitad masculina de la humanidad fuera la mayoría. En lugar de dictadura militar, se dice proceso. Las torturas se llaman apremios ilegales o también presiones físicas y psicológicas. Cuando los ladrones son de buena familia, no son ladrones, sino cleptómanos. El saqueo de los fondos públicos por los políticos corruptos responde al nombre de enriquecimiento ilícito. Se llaman accidentes los crímenes que cometen las automóviles. Para decir ciego se dice no videntes. Un negro es un hombre de color. Donde dice larga y penosa enfermedad, debe leerse cáncer o sida. Repentina dolencia significa infarto. Nunca se dice muerte, sino desaparición física. Tampoco son muertos los seres humanos aniquilados en las operaciones militares. Muertos en batalla son bajas y los civiles que ligan sin comerla ni beberla son daños colaterales. Cuando las explosiones nucleares de Francia en el Pacífico Sur, el embajador francés en Nueva Zelanda declaró: no me gusta esa palabra bomba, no son bombas, sino artefactos que explotan. Se llama Paz y Justicia, el grupo paramilitar que en 1997 acribilló por la espalda a 45 campesinos, casi todos mujeres y niños, mientras rezaban en una iglesia del pueblo de Acteal, en Chiapas.
Voilà, donc c'est un morceau qui s'appelle Les Mots. Et c'est une exclusivité CFM puisque ce morceau n'est jamais passé sur aucune radio. C'est la première fois qu'il passe. Je suis assez fier parce que c'est mon fils qui a fait cette composition musicale sur un texte de Eduardo Galeano, qui est un auteur
argentin.
Non, j'hésite toujours entre uruguayen ou paraguayen.
Ah oui, mais
c'est un des deux, c'est uruguayen. Qui a écrit un livre Patas Arriba sur l'école du monde à l'envers en 98 et qui montre comment le capitalisme détruit les individus et vole leurs mots et sur le langage. Donc ce morceau sera en toile de fond de l'exposition que je vais faire à Verdun sur Garonne du 28 au 30 mars avec le vernissage vendredi 28 à 19h et c'est un morceau qui va accompagner les tableaux que je vais proposer. Donc ce texte-là est un texte sur le langage, sur le détournement du langage par les dominants, et qui montre comment les dominants utilisent le langage et le détournent pour asseoir leur domination.
Merci Didier. Je rappelle donc que c'est 28, 29 et 30 mars à Verdun-sur-Garonne, à l'espace La Chapelle, que tu exposes. Mais je répète que c'est qu'à peine trois jours, donc il faut rappeler qu'il faut...
Oui, donc c'est ça, il y a le vendredi soir pour le vernissage, et ensuite le samedi et le dimanche de 14 à 19h, puisque c'est chez un particulier qui ouvre sa grande et belle maison, et voilà, donc c'est pour ça que c'est ce qui explique le peu de durée.
Et je saute sur l'occasion aussi, parce que tu as parlé d'Eduardo Galeano, dont c'est un... référence obligée, il me semble, pour comprendre bien l'Amérique latine. Il a une œuvre phare qui s'appelle Las venas abiertas de América Latina, les veines ouvertes d'Amérique latine, et où explique comment le capitalisme et le néolibéralisme fixent les règles de ce qui est la justice, c'est la pseudo-justice économique. Et tu n'as pas peur, Didier, de faire tout cette... c'est ta pause musicale, pardon, c'est ta création musicale parlée en espagnol. Tu n'as pas peur que tu sois incompris ici dans les Tarn-et-Garonne, parce que c'est vrai, il y a une présence hispanique, hispanophone, mais quand même, il n'y a pas beaucoup qui vont te suivre là-dessus. Peu importe pour toi, c'est la phonétique.
Non, c'est pas ça. C'est que quand les chansons sont en anglais, personne ne pose la question.
Oui.
Si c'est dans une autre langue que l'anglais, si j'avais mis de l'occitan, du catalan, de l'espagnol ou du basque, on m'aurait posé la même question.
Non. Tu sais pourquoi je te pose la question? Parce que quand c'est en anglais, ce sont des paroles ou des sens plutôt pour divertir ou pour sens superficiel. Là, on a avec un texte qui a du sens, qui a un contexte militant, qu'il y a un message à faire passer. Donc, mais, là... Oui, tu te comprends
pourquoi j'ai prévu de mettre à disposition du public aussi le texte traduit.
Ah, d'accord.
Par écrit.
Oui. Mais et là, par exemple, pour nos auditeurs là qui viennent d'écouter cette version exclusivement en espagnol, qu'est-ce que tu pourrais leur dire en peu de mots?
En peu de mots, c'est cette question du langage où en quelques exemples, on dit que, par exemple, Galeano dit que Dignité, c'était le nom d'un des camps de concentration de la dictature chilienne. Un camp de concentration qui s'appelait Dignité. La plus grande prison de la dictature uruguayenne s'appelait Liberté, Libertad. Paz y Justicia, Paix et Justice, c'était un groupe paramilitaire qui, en 97, a tué 40 personnes au Chiapas, notamment des femmes et des enfants. Voilà ce que ça dit. Et cette histoire autour du langage continue, hein, puisque de nos jours, on ne dit pas capitalisme, on dit économie de marché, on ne dit pas patron, on dit manager ou chef d'entreprise, on ne dit pas ouvrier, mais opérateur ou pire collaborateur. C'est très fort. Un chômeur est un demandeur d'emploi. Et ce lexique a été intégré même par les forces qui essayent d'y résister. J'ai vu sur une des listes qui se présente au municipal de Montauban, pourtant une liste marquée à gauche, que un des candidats se présente comme demandeur d'emploi. C'est-à-dire, utilise la périphrase des dominants pour se définir. Et il y a une chose que je peux pas m'empêcher de citer, c'est quand j'ai entendu un matin à 7h sur France Inter, un expert d'Alcatel-Alstom, parce qu'ils sont tous experts ces gens-là, il n'y a que des experts qui parlent. Moi, je suis pas expert, hein, mais je sais quand même les écouter. Qui venait présenter son plan de sauvegarde de l'emploi. Ça s'appelle comme ça, ça a une réalité juridique, c'est un PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi. Et le mec, il venait à 7h du matin sur France Inter pour annoncer qu'il y avait 900 emplois qui allaient être supprimés.
Mais c'est un mentiment.
Il avait le plaisir de nous présenter son plan de sauvegarde de l'emploi.
Oui, ce sont les mêmes experts qui vont refaire leurs propres conneries.
Et voilà, ma tartine, le beurre a tourné sur ma tartine ce matin-là.
Alors, un autre coup de gueule, Didier, vas-y. Tu as encore du temps. Mais sinon, si tu ne fais pas un autre coup de gueule, alors c'est moi qui... Puisque tu as parlé de la parole, des rapports à la parole, il y a un film qui m'a beaucoup frappé et que tu as vu aussi, et que ça m'a fait plaisir que tu puisses le mentionner. C'est un film de Georges Devereux avec Benicio del Toro et Mathieu Amalric. Donc, il s'agit d'une psychanalyse d'un indien de plaine. Et là, je l'adorais, ce film. Et parce qu'il nous montre comment la guérison, entre guillemets, ne passe pas par une expertise. C'est un expert qui vient et qui est tout savant. Mais plutôt par la connaissance de la culture de ton interlocuteur. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu dans ce film, qui est plein de poésie et des messages subtils, des regards, des silences. Bon, ça c'est mon goût. Alors, les tiens.
Alors, moi, on parle de Jimmy P, la psychothérapie d'un Indien des Plaines. C'est un film de Desplechin, oui.
Devereux,
c'est le personnage. Devereux, c'est le personnage que joue Mathieu Amalric.
Ah oui, c'est lui qui a écrit le livre.
Qui est à l'origine de ce qu'on a appelé ensuite l'ethnopsychiatrie.
Merci pour la précision.
Voilà. Il était anthropologue.
On a 2 minutes.
Et donc moi, ce film m'a passionné aussi pour toute cette introspection au sein des victimes de ceux qui souffrent de troubles comme ça causés par la guerre. Et j'ai vu aussi une métaphore, moi, de tous les gens qui sont frappés par la toujours j'enfonce sur le même coup sur la guerre sociale que mène le capitalisme, c'est-à-dire que des Indiens abîmés, on en trouve beaucoup dans nos rues, dans nos villes et autour de nous. Et donc c'est ce parallèle-là. Puis Desplechin est un réalisateur qui vient du nord, de Roubaix. J'ai un peu connu cette ville et c'est vrai que cette misère-là des victimes de la guerre sociale, on les voit partout dans les rues. Et c'est ce que j'ai vu, c'est ce parallèle-là. Mais après le film dure très longtemps, il dure 2 heures, il est très riche comme tu le disais. Mais j'ai pas vu le temps passer. On est tellement en symbiose avec cette relation là qui est entre le soignant et le patient que c'est vraiment un film passionnant aussi.
Merci beaucoup Didier, merci aussi à Marie et à Léo qui
merci à vous.
Nous a aidé
à vous
cuisiner. J'espère qu'on va bientôt t'inviter et que tu nous tiennes au courant de ton actualité artistique.
Avec plaisir. Merci. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, c'était les rendez-vous de Rosendo avec Didier Mire. Les rendez-vous de Rosendo, je vous rappelle que c'est tous les dimanches à 13h, rediffusion le mardi à 23h et que vous pouvez retrouver toutes les émissions de Rosendo en podcast sur cfmradio.fr.